Tout de suite, un point sur l'information avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Des peines allant jusqu'à un an de prison ferme prononcées ce soir à Valence contre quatre gilets jaunes qui avaient agressé des policiers lors d'une manifestation. Ils avaient notamment roué de coups le directeur de la police de la Drôme. Des scènes de violence qui ont fait le tour du monde et qui ont découragé beaucoup de touristes. Les visiteurs étrangers boudent la capitale pour ces fêtes de fin d'année. Le succès de la pétition sur le climat, le ministre de la transition écologique ose le parallèle entre gilets jaunes et gilets verts. Le retour sur le devant de la scène de l'encombrant Alexandre Benalla, son voyage au Tchad vire à l'imbroglio avec l'Élysée. L'immeuble de Saint-Denis qui a pris feu hier soir faisait l'objet d'un arrêté de péril mais sans ordre d'évacuation. Deux personnes sont grièvement blessées. Un petit miraculé en Savoie, un garçon de 12 ans a passé une heure enseveli sous une avalanche. Kevin Mayer, le décathlonien, et Clarisse Agdegdenou, la judoka sacré champion des champions cette année 2018, on les entendra. Et puis on réécoutera aussi ensemble une interview de Raphaël Duchemin que vous retrouverez tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h dans La France qui bouge. Raphaël qui quotidiennement donne la parole à des femmes ou à des hommes qui œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et pour casser les codes des citoyens, des entreprises, des collectivités qui s'engagent et qui inventent le monde de demain. Ce soir, on sera avec Béatrice Brandt, la directrice générale du Jacquard français.
Europe 1.
Quatre gilets jaunes ont donc comparu cet après-midi au tribunal de Valence dans la Drôme. Quatre manifestants jugés pour des violences sur des policiers le 8 décembre dernier et notamment sur le directeur départemental de la sécurité publique. Avec à la clé donc Jean-Luc Boujon, des peines de prison ferme.
Oui, ce sont des peines sévères, exemplaires. On a senti cela, cette volonté de faire un exemple dans les réquisitions du ministère public et dans le jugement du tribunal. Et à la sortie de l'audience, eh bien, on a vu des attitudes très différentes chez les gilets jaunes. Par exemple, très remontées chez Stéphane Trouille, celui qui a écopé de la peine la plus lourde, un an ferme, et dont le comportement à la barre était pour tout dire assez arrogant. Et c'est un peu la même chose quand il quitte le palais de justice et qu'il s'adresse à la cinquantaine de personnes venues le soutenir.
La justice aujourd'hui a tapé fort. En tous les cas, on est là, on n'est pas seul et on se bat pour nos idées, on se bat pour ce qu'on croit être bien. On le fait à fond et on continuera. Il y a une solidarité incroyable et ça, ils ne pourront pas nous l'enlever. Et ça, il faut qu'on le garde, ça, on l'a entre nous, on le sait. Gardons tout ça.
Voilà, aucun regret exprimé alors qu'une heure auparavant, les images vidéo diffusées à l'audience l'avaient montré en train de frapper deux policiers dont l'un, le directeur départemental de la sécurité publique, était à terre. Sa collègue Maria Briand, boulangère de 37 ans, a elle adopté un profil beaucoup plus bas, admettant des gestes stupides ce jour-là contre les fonctionnaires. À la barre, elle s'est excusée et même allée jusqu'à serrer la main du policier présent à la sortie de l'audience. Aujourd'hui, en voyant les images, j'ai compris qu'ils n'étaient pas nos ennemis, a-t-elle déclaré. Peut-être le début d'une prise de conscience chez cette militante communiste engagée qui a été condamnée à 3 mois de prison ferme.
Jean-Luc Boujon à Valence, dans la Drôme, pour Europe 1. Les violences qui ont émaillé les manifestations des gilets jaunes depuis un mois ont clairement découragé les touristes qui, traditionnellement, en cette période de l'année, affluent du monde entier à Paris. La capitale a enregistré une forte baisse de fréquentation et le début de l'année 2019 s'annonce également compliqué avec des annulations en pagaille, Maud Descamps.
Eh bien oui, un moins 25% de fréquentation au niveau national pour les mois de novembre et décembre. Voilà le bilan. Ce sont des chiffres que m'a communiqué le président des offices de tourisme de France, Christian Mouizard. Et vous allez l'entendre, il y a même des zones où c'est bien pire que cela.
Nous avons eu une très mauvaise fin d'année. Sur ce mois-ci, nous avons des baisses supérieures à 30 ou 40% de fréquentation. Quand même, une niche comme le tourisme d'affaires a énormément souffert puisque de par la gêne que cela a occasionné, il y a énormément de séminaires, de réunions de travail qui ont été plus ou moins ajournées ou reportées.
Voilà, le tourisme d'affaires donc très affecté, mais aussi le tourisme de loisirs. À Paris, étonnamment, la baisse est moins forte, avec un repli d'activité au mois de décembre de l'ordre de 10% dans l'hôtellerie. Mais dans certaines zones, notamment autour des Champs-Élysées où ont eu lieu, vous savez, les manifestations, eh bien là, la chute peut atteindre 30%. Et puis, il y a aussi un phénomène de vase communicant avec d'autres zones touristiques qui, elles, ont bénéficié d'un report de ces touristes. Je vous donne un exemple. La zone commerciale à proximité de Disneyland a enregistré une hausse de 50% au mois de décembre. Donc tout le monde n'est pas perdant. Et puis, il y a quand même une petite note positive. Ce sont les stations de ski, notamment dans les Alpes, qui, elles, a priori, vont faire une très bonne fin d'année. Mais ça ne suffira pas à compenser les pertes des mois de novembre et de décembre.
Les précisions de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Et si pour compenser justement le manque à gagner engendré par cette crise des gilets jaunes, les soldes d'hiver étaient avancés de quelques jours. Et si elles débutaient, par exemple, le 2 ou le 3 janvier, c'est-à-dire une semaine plus tôt, C'est ce que propose en tout cas la Confédération des commerçants de France ou encore le Conseil national des centres commerciaux. Ce matin, dans le journal Le Parisien, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a osé le parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et la pétition « L'affaire du siècle » qui réclame une action en justice contre l'État pour dénoncer son inaction climatique, texte déjà signé par 1,7 million de personnes. François de Rugy parle de cette pétition comme d'une réplique au mouvement des Gilets jaunes. Écoutez la réaction sur Europe 1 ce soir de Jean-François Julliard. Il est le directeur général de Greenpeace France.
Monsieur de Rugy se trompe complètement et essaie de diviser les choses de manière tout à fait artificielle. Ce serait absolument caricatural de dire qu'il y a les Gilets jaunes d'un côté et les défenseurs de l'environnement de l'autre. Depuis le début, effectivement, Emmanuel Macron a tenté d'opposer ceux qui travailleraient pour la fin du mois et ceux qui travailleraient pour la fin du monde, ce qui est absolument absurde. C'est aussi le témoin, le signe que ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, ni François de Rugy aujourd'hui n'ont une vraie vision de ce que doit être une transition écologique juste et équitable.
Jean-François Julliard, il y a également sur le fond cette réponse, ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que du côté du gouvernement, on remet en cause la possibilité d'être attaqué en justice sur cette question de la défense de la planète.
Oui, mais moi je le vois comme un signe avant tout de fébrilité de la part du gouvernement vis-à-vis de cette démarche. C'est une démarche juridique inédite, elle a rassemblé aujourd'hui plus d'1,7 million personnes, donc forcément le gouvernement se sent un peu pris au dépourvu. Et je rappelle juste que une démarche semblable a été intentée il y a maintenant 3 ans aux Pays-Bas et qu'aux Pays-Bas, cette démarche juridique a abouti à la condamnation de l'État par un tribunal administratif qui a jugé que le gouvernement néerlandais n'en faisait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui a fonctionné aux Pays-Bas ne pourrait pas fonctionner en France. En tout cas, ça vaut la peine d'être tenté. Je ne comprends pas M. de Rugy quand il dit que les tribunaux n'ont pas à s'occuper de lutter contre le dérèglement climatique. Bah si, aussi.
Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, il était l'invité de François Claus ce soir sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1. Depuis 24h, c'est le retour sur le devant de la scène d'Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur de l'Élysée qui s'est rendu au Tchad début décembre à N'Djamena, quelques jours avant le déplacement sur place d'Emmanuel Macron, le président qui a fêté Noël là-bas avec les militaires français. Forcément, ça interpelle, coïncidence troublante. Adrien Beck, ce voyage, il pose beaucoup de questions.
Oui, et la première, pourquoi Alexandre Benalla est-il allé à N'Djamena quelques jours seulement avant Emmanuel Macron ? Pure coïncidence, selon l'ancien collaborateur de l'Élysée. Je suis allé au Tchad accompagnant une délégation économique étrangère dans le cadre d'investissements, dit-il. Alors, quelle délégation ? Quels investissements ? Alexandre Benalla n'en dit pas plus, mais à peine le déplacement mis en lumière par nos confrères du Monde ce week-end, l'Élysée, un peu embarrassé, fait une mise au point très claire hier soir. Il n'est pas un émissaire, ni officiel, ni officieux de la présidence de la République, martèle l'entourage du chef de l'État. Le palais rappelle aussi qu'une enquête interne est menée pour savoir si Alexandre Benalla a pu profiter de son titre pour servir ses intérêts. De quoi agacer l'intéressé qui répond dans la foulée par communiqué, lâche ses coups, se dit choqué, scandalisé par les propos irresponsables tenus par l'Élysée, avant de dénoncer certaines personnes au plus haut sommet de l'État qui souhaitent, selon lui, le faire taire. Il conclut comme un avertissement « Maintenant, ça suffit de vouloir m'accuser de tout et n'importe quoi, je ne me tairai plus ». En pleine trêve de Noël, l'Élysée se serait sans doute bien passé de cette bataille par médias interposés et de ce nouveau rebondissement dans le feuilleton Benalla.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et si Emmanuel Macron a donc réveillonné avec les soldats français au Tchad, on apprend que le président américain Donald Trump et son épouse Melania se sont eux rendus en Irak le soir de Noël. Visite surprise à la rencontre des troupes américaines. Le président américain qui en a profité pour redire que les États-Unis ne pouvaient plus être le gendarme du monde. C'est injuste quand le fardeau est entièrement sur nous, les États-Unis. La police scientifique appelle à la grève la nuit de la Saint-Sylvestre pour réclamer une amélioration du statut des agents. Elle avait dans un premier temps lancé un préavis de grève illimité à partir d'aujourd'hui, mais elle a finalement décidé de cibler cette nuit symbolique avant une rencontre prévue avec le ministre de l'Intérieur le 8 janvier. En Savoie, un enfant de 12 ans a été retrouvé vivant après avoir passé une heure enseveli sous une avalanche qui l'avait emporté alors qu'il skiait sur un secteur hors piste de la station de La Plagne. C'est un petit miracle de Noël, comme l'explique le capitaine Patrice Ribes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Bourg-Saint-Maurice.
Cet adolescent qui est devant, il a déclenché une avalanche de grande ampleur, environ 500 mètres de large sur 800 mètres de long, et s'est fait transporter sur plusieurs centaines de mètres. Le PGHM s'est déplacé sur les lieux avec une équipe cynophile qui a repéré la victime, ensevelie sous un mètre de neige environ. Et déjà, il a eu beaucoup de chance de ne pas décéder, étant donné qu'il a parcouru quelques centaines de mètres sous la neige, il aurait pu percuter des blocs. Il peut être comprimé par les forces qui s'exercent par le manteau neigeux, et puis certainement que quand il s'est arrêté, la neige qui le recouvrait était pas compact. Par chance, il n'a pas inhalé de neige, donc il n'avait pas de bouchon de neige dans la bouche, ce qui lui a permis de survivre pendant une heure sous la neige.
Le capitaine Patrice Ribes, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock. Deux personnes sont toujours dans un état grave après l'incendie d'un immeuble de Saint-Denis en banlieue parisienne. Je vous en parlais hier soir. Elles se sont défenestrées pour échapper aux flammes. 11 autres habitants ont été légèrement blessés. Alors que l'on découvre, Pauline Jacquot, que cet immeuble était, semble-t-il, insalubre.
Oui, un immeuble suivi par la municipalité. Un arrêté de péril pris par le maire l'an dernier. Un arrêté d'insalubrité sur certains réseaux électriques pris cette fois par le préfet. 4 logements avait d'ailleurs été évacué au printemps 2018. Et puis, plus rien, les propriétaires n'ont jamais fait les travaux demandés, nous dit la mairie. Plusieurs câbles électriques pendaient encore des plafonds, des habitants parlent de fuite d'eau, de murs fissurés d'un immeuble en très mauvais état. Mais on ne connaît toujours pas la cause de l'incendie. D'après nos informations, le feu serait parti d'une cuisine d'un appartement du premier étage. Hier soir donc, le capitaine Fraisse était sur les lieux.
L'incendie est parti d'un appartement du premier étage et s'est propagé via la cage d'escalier à l'ensemble des étages, donc 3 étages en tout. Il semblerait que la porte de l'appartement d'où est parti l'incendie soit restée ouverte, ce qui a favorisé la propagation de l'incendie. Et là, malheureusement, 2 personnes, pris de panique, donc dont un homme, a sauté du 3e étage et une femme a sauté, elle, du 2e étage.
Une femme enceinte qui n'est plus en danger, d'après le capitaine Fraisse. En revanche, l'homme, blessé à la tête, allongé au sol, inconscient à l'arrivée des secours, est toujours dans un état très grave. À ce stade, la piste accidentelle n'est pas écartée. C'est la police judiciaire de Seine-Saint-Denis qui est chargée de cette enquête. Ces 6 derniers mois, 2 autres incendies ont été comptabilisés, d'après la mairie, avenue du président Wilson, là où s'est produit le drame d'hier soir.
Les précisions de Pauline Jacquot. La justice belge ordonne à l'État d'organiser le rapatriement de 6 enfants belges de combattants djihadistes actuellement retenus avec leur mère en Syrie. Décision saluée par les défenseurs des droits qui jugent ces retours urgents des enfants âgés de moins de 6 ans et qui sont actuellement dans un camp de réfugiés sous le contrôle des Kurdes en Syrie. De nouveaux heurts dans 3 villes de Tunisie la nuit dernière. Après l'immolation par le feu d'un journaliste, il voulait dénoncer les inégalités dans son pays. Pour les habitants de Kasserine qui n'ont pas de moyens de subsistance, aujourd'hui je vais commencer une révolution, a expliqué cet homme de 34 ans dans une vidéo qu'il a publiée 20 minutes seulement avant de passer à l'acte. La fin de la loi martiale en Ukraine, le président Porochenko y met un terme. Elle avait été instaurée fin novembre dans plusieurs régions frontalières à la suite d'une confrontation maritime avec la Russie au large de la péninsule de Crimée. Israël autorise l'exportation de cannabis à usage médical. Cette loi permet aux agriculteurs de cultiver du cannabis destiné donc à un usage thérapeutique à condition d'obtenir un permis officiel. L'exportation de cannabis pourrait générer un revenu de 234 millions d'euros par an pour Israël, selon les estimations du Parlement. Le Japon va reprendre la chasse à la baleine à des fins commerciales après 30 ans de trêve, tout du moins sur le papier, puisqu'en réalité, l'archipel n'a jamais complètement cessé cette pratique. Il utilise en effet une faille de moratoire mise en place en 86 qui autorise la chasse aux cétacés pour des recherches scientifiques. Le Japon qui rejoint donc l'Islande et la Norvège qui, eux aussi, chassent la baleine.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h13, 2018, année de champion. Il y a nos champions du monde de foot, bien sûr, mais il y a aussi cette distinction décernée aujourd'hui par le journal L'Équipe, le trophée du champion des champions. Et cette année, il revient à Kevin Mayer, le décathlonien, et à Clarisse Agnès-Genou, la judoka. Kevin Mayer devant Kylian Mbappé, Martin Fourcade, Raphaël Varane et Antoine Griezmann. Et ça lui fait quelque chose, lui qui a battu le record du monde récemment à Talence.
À Talence, à part le saut en hauteur où ça a été assez chaotique, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune fausse note, aucun moment où j'ai été inquiété de la performance à faire ou quoi. Tout s'est passé comme sur des roulettes et c'est très très rare en décathlon. Mais sinon, j'avais l'impression de réciter une symphonie que j'avais en moi depuis des années et que tout se passait sans aucune fausse note. Et si je devais retenir un moment qui a été beaucoup plus fort que les autres, c'est vraiment le lancer du javelot, mon dernier essai. J'expose mon record alors que j'avais plus de jambes, plus rien. C'était un moment incroyable, je dirais même électrique, une atmosphère qui avait totalement changé, un public transcendé, moi aussi, donc c'était ouf.
Voilà, le grand Kevin Mayer. Et chez les femmes, c'est donc la judoka Clarisse Agbe-Nienou qui décroche ce titre de championne des championnes devant la skieuse Perrine Lafont, la nageuse Charlotte Bonnet, la patineuse Gabriella Papadakis et la skieuse handisport Marie Baucher. Clarisse qui a décroché cette année un troisième titre mondial en moins de 63 kilos et qui termine sa saison invaincue.
J'aime bien être sur une bonne lancée. Quand il y a des bas et après des hauts, j'aime pas quand c'est en dents de scie comme ça. J'aime bien quand il y a une progression. Donc du coup, c'est vrai que j'ai commencé l'année dernière, j'ai fini en décembre un peu avec une blessure. Et après, où ça a été super bien, où je me suis bien rattrapée, je me suis bien entraînée, où c'est vrai que j'ai tout gagné. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'en y pensant, et quand vous me le dites, je me dis « Ah, c'est pas mal finalement ».
Alors, on vous le confirme, c'est pas mal du tout. Clarisse Agbe-Nienou, elle était au micro Europe 1 de Corinne Boulot. Alors pendant ces vacances, vous pouvez faire du sport pour tenter d'égaler ces deux champions. Bon courage, mais vous pouvez aussi aller au cinéma. Et en ce jour de sortie, notre spécialiste Mathieu Charrier vous incite fortement à découvrir Au bout des doigts. Et on ne dit pas ça parce que c'est un film Europe 1. Film de Ludovic Bernard avec Christine Scott Thomas, Lambert Wilson et un jeune espoir, Jules Benchetrit. Il a 20 ans, il est le fils de Marie Trintignant et de Samuel Benchetrit, critique enthousiaste donc de Mathieu Charrier.
Au bout des doigts, c'est le feel-good movie de cette semaine de Noël, idéal pour une sortie ciné en famille. Mathieu est une petite frappe de banlieue, adepte des cambriolages et du piano, passion qui lui a été transmise dans son enfance. Évidemment, au milieu de ses tours, il n'ose pas en parler par peur des moqueries et préfère aller jouer sur les instruments en libre-service dans les gares. Jusqu'au jour où, un peu par hasard, Pierre Gettner, directeur du conservatoire de musique, va tomber sur lui.
Je suis directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Venez me voir au conservatoire, d'accord ? On sera plus au calme.
Le jeune homme le rejette, mais pour échapper à une peine de prison, il va être obligé d'accepter sa proposition. Début d'une rédemption, d'une reconstruction, alors que Pierre Gettner lui joue son poste, car il doit présenter son meilleur élève à un concours international, c'est Lambert Wilson qui l'incarne.
Il y a passation de savoir, d'expérience, de mon personnage au sien. Il y a apprentissage, mais il y a aussi la nécessité qu'ils ont d'être l'un avec l'autre.
Voilà, Au bout des doigts, donc un film dans lequel chacun doit dépasser ses préjugés, le jeune homme de banlieue, mais aussi les professeurs de musique. Il y est également question de persévérance et de rigueur, indispensable à l'apprentissage d'un instrument de musique.
Mathieu Charrier, Au bout des doigts, c'est donc un film Europe 1 à l'affiche depuis aujourd'hui. Et puis attention à ce que vous faites avec vos cadeaux de Noël. Ce matin, deux hommes ont semé la panique sans le vouloir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en manipulant une arme factice qui était en fait un jouet pour le fils de l'un des deux. C'est un passager qui a donné la alerte après avoir vu ces deux hommes parlant russe qui manipulaient une arme dans le terminal 2, une réplique d'un FAMAS, un fusil d'assaut utilisé notamment par l'armée française. Le jouet était trop grand pour rentrer dans une valise. Du coup, ils ont décidé de le démonter au milieu du terminal, provoquant la panique des passagers. Tout s'est bien terminé. Ils ont été interpellés quand même, puis relâchés, et l'affaire a été classée sans suite. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna, avec plusieurs nuances de gris demain, Elena.
En effet, Isabelle, notre anticyclone est d'humeur badine. Certes, il nous assure du beau temps, mais après dispersion du brouillard qui sera localement givrant et persistant entre le nord-est, le centre, le massif central. Après dispersion du brouillard, lorsqu'il se dissipera, ce ne sera pas toujours le cas entre les vallées vosgiennes et le Dauphiné, le ciel sera lumineux. L'humeur badine de notre anticyclone se traduit aussi par une petite faiblesse sur l'ouest demain avec des nuages plus nombreux et une espèce de bruinasse entre la Bretagne et les Landes. Sur les autres régions du sud des Pyrénées-Alpes, c'est un beau camaï de bleu en dehors du littoral méditerranéen, là aussi sous les nuages portés par le vent marin. Les températures resteront mordantes demain matin, avec moins 5 à 0 degrés sur une grande partie du pays. Ce sera plus doux sous les nuages côtiers entre Brest, Biarritz et Nice ou Ajaccio, avec 3 à 7 degrés. L'après-midi, les températures resteront proches de 0, là où le brouillard sera persistant. Sinon, comptez entre 3 à 4 degrés de Langres à Strasbourg, 5 à Lille, 6 à Paris, 8 à Rennes, ainsi qu'à Annecy, 9 à Lyon, 11 à Brest, 12 à Toulouse, 13 à Bordeaux et Montpellier, 15 à Marseille et 16 pour Ajaccio. Notre anticyclone nous assurera ce temps d'hiver jusqu'en milieu de semaine prochaine.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité de Raphaël Duchemin, Béatrice Brandt, la directrice générale du Jacquard français. À tout de suite.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Wall Street a terminé la séance en forte hausse.
C'est la fête, hein. Ça remonte fortement à Wall Street, un rebond très spectaculaire.
de pratiquement 5% sur l'indice Dow Jones, 22 878 points. Le Nasdaq, c'est encore mieux, a repris plus de 6%, 6,16%. 6263 points, un rebond, un gros rebond technique, on va l'appeler comme ça, après le coup de vent de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Donald Trump a rassuré les marchés en réaffirmant sa confiance dans son secrétaire d'État au Trésor, Steve Mnuchin, en le jugeant même talentueux. Pour le président américain, la baisse récente de la bourse est même une opportunité unique pour se placer. Et visiblement, le message est passé puisque les investisseurs donc sont revenus en masse sur le marché américain ce soir. Rappelons quand même que les indices avaient perdu une vingtaine de pourcents depuis leur record de l'automne passé, sur des craintes de ralentissement économique, entre autres. Donald Trump a même déclaré qu'il avait désormais confiance dans la réserve fédérale américaine. Il en a fait beaucoup, hein, après l'avoir copieusement critiqué pour sa politique monétaire jugée trop restrictive. Le pétrole aussi, du coup, en profite pour remonter de 7%, 45 dollars. Sur le baril WTI, après avoir atteint un plancher depuis 18 mois hier soir. Donc il y a beaucoup de valeurs, évidemment, en forte hausse ce soir. On va en citer quelques-unes. Parmi les valeurs de technologie, on a Amazon qui regagne pratiquement 10%, Apple qui remonte de 7%, Microsoft de 6,8%, Cisco plus 5,5% ou IBM plus 3,5%. Donc de très fortes hausses sur la plupart des valeurs américaines. C'est beaucoup plus calme, hein, sur les devises. On est autour des 1,14 sur l'euro face au dollar. C'est le marché qui se tient un petit peu à l'écart de ce rebond général.
Et Didier, la bourse de Paris est restée fermée aujourd'hui, comme la plupart des marchés européens d'ailleurs.
Oui, effectivement. Quasiment.
C'est encore la trêve.
Et oui, on est resté tranquille au chaud, puisque Francfort aussi était fermé, de même que Vienne, Bruxelles, Madrid, Londres ou encore Milan. Il y a Ankara qui est à côté et qui a gagné 0,2% du côté de la Turquie. L'euro donc est revenu un cran en arrière sous les 1,14, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais à noter quand même que l'or a fortement progressé. C'est peut-être un signe qu'il ne faut pas trop s'emballer à l'image du marché américain ce soir. L'or est remonté à 1270 dollars l'once ce soir. C'est la plus forte hausse, on va dire, sur des marchés évidemment très calmes puisque la plupart étaient fermés.
Merci beaucoup Didier Hamo de Boursier.com. Il est 22h22, merci d'écouter Europe 1 et toute cette semaine et pendant ces vacances de fin d'année, vous savez que nous allons retrouver Raphaël Duchemin. Raphaël qui est aux commandes de la tranche de la mi-journée sur Europe 1 avec son émission La France qui bouge tous les jours de semaine entre 13h et 14h. Elle s'intéresse à ces femmes et à ces hommes qui s'investissent pour faire évoluer notre société et chaque jour elle vous présente l'entreprise qui va bien. Alors on va réécouter quelques-unes de ces interviews ensemble pendant cette période de fête et ce soir je vous propose de réentendre Béatrice Brandt, la directrice générale du Jacquard français. Bonjour Béatrice Brandt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du Jacquard français. Vous faites des nappes, des torchons, des tabliers, des produits pour le bain aussi. La marque est apparue vraiment sous cette appellation-là dans les années 60, mais l'histoire commence bien avant dans les Vosges, c'est ça ?
C'est ça. En fait, le Jacquard français trouve ses origines dans les établissements Nathan Lévy qui ont été créés en 1888. Donc les Vosges étaient une terre textile, hein, et voilà, l'origine du Jacquard, c'est ça. Donc c'était déjà des métiers à tisser qui fabriquaient du damassé, du linge damassé, donc qui permet d'avoir des dessins dans la construction même du tissu. Et donc le Jacquard français, la marque, est née à la fin des années 60, début des années 70.
Oui, quand le groupe Elis, qui est une blanchisserie au départ, rachète et crée la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui.
C'est ça, exactement. En fait, le groupe Elis, c'était une filiale du groupe Elis à l'époque, a racheté la société puisqu'elle louait et lavait du linge pour les restaurants, par exemple. Et donc, c'était une sorte d'intégration verticale, si vous voulez. Et puis, l'entreprise a choisi de créer une marque grand public aussi et donc d'apporter de la couleur sur les nappes, hein, et donc de faire un vrai produit grand public, en fait.
Est-ce qu'on fabrique toujours à l'ancienne avec les fameux métiers à tisser dont vous parliez?
Absolument. En fait, c'est encore une fabrication qui est très manuelle, parce que même si on a des métiers à tisser automatisés, en fait, chaque étape de la fabrication est manuelle et demande un savoir-faire vraiment d'exception à chaque étape.
C'est pour ça que vous avez le label Patrimoine Vivant.
Exactement. En fait, on l'a obtenu en 2011 et c'est une reconnaissance très importante pour nous, pour le savoir-faire de tous nos artisans, maîtres artisans.
Je sens qu'une question brûle les lèvres du coach Nicolas Chabanne.
Une question, mais d'abord une remarque. C'est merveilleux de voir que des entreprises avec une tradition, je crois que c'est 1888, fonctionnent très bien. La qualité, c'est très demandé. Vous avez le slip français aussi de Guillaume Gibault qui est sur la même ligne. Donc déjà, bravo. Bravo aux consommateurs qui font ce choix aussi, plutôt que d'aller vers du bas prix qui envahit un peu tous les linéaires. Combien d'emplois ? Je vais vous poser cette question parce que quand on achète un produit, je trouve merveilleux de savoir qu'en France, on aide des gens qui travaillent tous les jours. Combien d'emplois sont concernés ?
Alors en fait, on a 120 employés, mais il faut savoir qu'à la manufacture, donc il y a 70 personnes qui travaillent. Les autres personnes sont des commerciaux ou des démonstrateurs dans les grands magasins, par exemple, ou les vendeurs dans nos magasins propres. Mais voilà, il y a 70 personnes à la manufacture qui créent nos produits. En revanche, il y a quand même plus de 30% des effectifs qui partent à la retraite là entre cette année et l'année prochaine.
Vous allez avoir besoin de recruter.
Exactement. Donc comme la formation nécessite au moins 6 mois, on a beaucoup de jeunes là qui entrent dans la maison et qui essaient d'apprendre ce savoir-faire qui demande quand même une certaine expérience.
Vous faites tout ici, pratiquement tout, parce que tout ce qui est en éponge est fabriqué ailleurs. Oui. Vous êtes arrivé, vous, je crois, hein, Béatrice Bonte, à un moment où la marque elle est un peu moins bien, où il fallait lui donner un petit coup de jeune.
C'est ça,
c'est important. C'est important de rester dans, à la fois avec des savoir-faire qui datent d'avant, mais de les moderniser.
C'est ça. En fait, déjà, on est sur un segment, le linge de table, qui est une niche. Donc, on n'achète pas une nappe tous les jours, malheureusement. En revanche, il y avait, enfin là, c'est une très belle marque, mais qui était un peu une belle endormie. Enfin, une marque
un peu désuète.
C'était beaucoup la nappe qu'adorait ma mère ou la nappe qu'adorait ma grand-mère, mais finalement, on s'appropriait pas tellement la marque soi-même. Donc, on a fait un gros travail l'année dernière avec Nelly Rodi, qui est une agence de style et de tendance, qui nous a aidé à reconstruire la plateforme de marque et de style et à traduire tout ça dans le territoire d'expression pour avoir une communication un peu plus actuelle de la marque.
Et aujourd'hui, vous dites on a envie de raconter des histoires avec notre linge, c'est-à-dire ?
En fait, aujourd'hui, les gens attendent plus que un beau produit. En fait, ils attendent qu'on leur raconte une histoire, que le produit soit présenté dans un environnement. Ils veulent avoir
Que c'est un produit assez cher aussi, n'est pas pour toutes les bourses.
Exactement. Donc, ils attendent d'avoir une communication qui est un peu plus incarnée. Ils veulent se projeter en fait dans le produit et n'achètent pas juste le produit parce qu'il est beau, mais parce qu'en fait, ils vont passer un bon moment avec des gens qui vont recevoir à la maison, par exemple, autour d'une jolie nappe.
Et aujourd'hui, vous exportez, vous vendez à l'étranger.
C'est ça. Aujourd'hui, on fait 50% du chiffre à l'export. Et en fait, c'est évidemment là qu'on va se développer le plus, puisque aujourd'hui, on ouvre de nouveaux pays, comme l'Australie, par exemple, qui promet un joli avenir devant nous.
C'est le jacquard français. C'est la belle entreprise du jour. L'entreprise qui va bien. Merci sur Europe 1.
Et c'était l'invité donc de Raphaël Duchemin, que vous pouvez retrouver tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h dans La France qui bouge. Et tout de suite, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que vous allez retrouver demain matin dans vos journaux ? Un air de France-Afrique, écrit Yolande Baldevec dans le journal L'Alsace. La journaliste revient sur le voyage au Tchad d'Alexandre Benalla, peu de temps avant le déplacement d'Emmanuel Macron à N'Djamena. Benalla, écrit-elle, n'aurait prévenu son ancien patron de son rendez-vous que la semaine dernière, ce qui laisse interrogatif sur le réseau des conseillers du Quai d'Orsay. D'autant que l'ancien chargé de mission, qui ne semble pas vouloir la jouer modeste, ni disparaître de la scène, a précisé qu'il a rencontré le président tchadien, mais aussi d'autres dirigeants du continent africain. On ne peut qu'admirer l'entre-genre d'un jeune homme de 27 ans qui a su se créer un réseau en si peu de temps. Il ne s'agit pas de lui interdire de travailler pour nourrir sa famille, mais force est de constater qu'il existe des jobs moins exposés. Surtout, il paraît difficile d'imaginer qu'il ne s'est pas recommandé de ses anciennes relations au palais pour se faire ouvrir des portes. En d'autres temps, on aurait appelé ce réseau parallèle mêlant politique et affaires, la France-Afrique. On comprend que l'Élysée ait cherché à prendre ses distances avec ce collaborateur sulfureux. Emmanuel Macron ne peut se payer le luxe d'une nouvelle affaire Benalla, et c'est à lire donc demain matin dans l'Alsace. Pétition, les politiques sous pression, titre le journal L'Opinion. Après le texte des Gilets jaunes, celui des ONG pour le climat atteint un nouveau record, 1,7 million de signatures, et oblige l'exécutif à répondre et à mettre le doigt dans un engrenage. L'Opinion qui nous apprend également que Florian Philippot a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque Les Gilets jaunes, on ne sait jamais, en vue des européennes. L'eurodéputé, fondateur du parti Les Patriotes et ancien bras droit de Marine Le Pen, compte présenter une liste en mai prochain, mais récolte péniblement 1% d'intention de vote dans les sondages. Un rapprochement avec les Gilets jaunes, dont l'hypothétique liste aux européennes recueillerait 8% des suffrages, selon Odoxa, représenterait une opportunité à ne pas manquer. Alors, récupération, Florian Philippot, en tout cas, s'en défend. Et puis dans Les Échos, Daniel Fortin revient sur le crash du low-cost long-courrier. C'est la désillusion, écrit-il. Après 3 années de croissance à 2 chiffres, le long-courrier low-cost, considéré comme le nouveau Graal du transport aérien, se prépare à un atterrissage difficile. Prise en tenaille entre la hausse des prix du carburant au premier semestre et la baisse des tarifs continue à mesure que la croissance s'envenime. Résultat, les compagnies créées de toutes pièces comme Norwegian, Wow Air ou Primera, malgré un réel succès commercial, sont dans une situation plus que délicate quand elles ne frôlent pas la faillite, avec le risque de déclencher une crise majeure dans les aéroports qui les accueillent. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon rapide des Unes de la Presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Le 39-21 pour nos auditeurs pour vous joindre.
Absolument, on vous retrouve tout à l'heure pour aller un point sur l'information.